ce que tu as caché aux sages et aux savants. L'expression peut être surprenante si on pense aux mages. Aux mages venus d'Orient fêter l'enfant Jésus qu'on fête au début de l'année à l'Épiphanie. Des mages, des sages et des savants à qui Dieu s'est révélé en premier, juste après les bergers. C'est à eux qu'il a fait connaître son Fils. C'est par eux que Dieu a révélé sa volonté de se faire connaître de toutes les nations. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Les sages et les savants dont il est question ici sont ceux qui se présentent ou se prétendent tels. Vous le savez, on en voit et on l'entend sans cesse aujourd'hui. Ils sont peut-être encore plus nombreux que jamais. Ils sont experts en tout sauf en humilité. Quel que soit le domaine, même chez nous, même dans l'Église, même dans le domaine religieux, il y a cette façon de se donner en spectacle avec des disputes, des critiques mutuelles incessantes. C'est très fatigant. C'est pour cela plutôt qu'il faut se souvenir de l'Épiphanie, du début de l'année. Se souvenir particulièrement ce début juillet, 10 jours après la Saint-Jean-Baptiste, ce qu'on appelle la Noël de l'été, parce qu'il y a une symétrie fin juin, début juillet, avec Noël qu'on fête fin décembre et l'Épiphanie début janvier. Et il y avait d'ailleurs, par le passé, comme il y a au 1er janvier une fête de la Vierge Marie, la fête de Marie-Mère de Dieu, il y avait début juillet, le 2 juillet, une fête de la Vierge Marie de la Visitation, depuis le XIIIe siècle jusqu'en 1969, et ensuite elle a été avancée au mois de mai, au 31 mai, pour couronner le mois de Marie. Oui, nous devrions pouvoir vivre ce tournant de juillet comme celui de janvier, à la recherche d'un nouveau souffle, avec une volonté de repartir de plus belle dans l'année. Et nous faisons l'inverse. Nous avons peut-être pas fabriqué, nous avons laissé s'installer cette coupure effarante de 2 mois, juillet et août, où nous disons aux pauvres, aux chômeurs, aux malades, aux vieillards, à toutes les personnes seules, à tous les exclus, revenez en septembre. Attendez la rentrée. Et cette année en plus, avec les 2 mois du confinement, ça fait double dose. À vous dégoûter de travailler. On parle beaucoup de temps de travail. On en parle beaucoup trop en nombre d'heures par semaine. Alors qu'on sait très bien, d'ailleurs, tous les comparatifs fonctionnent ainsi. Il doit se calculer en nombre d'heures travaillées par an. Et nous, prêtres, et nous en paroisse, on est bien placés pour le savoir, qui vivons au rythme scolaire, avec des vacances toutes les 6 semaines, et puis cette coupure quand même insensée pendant 2 mois l'été. Mais ce qui est surtout insensé, c'est le rythme pendant l'année, le rythme compressé de l'activité sur quelques mois, avec, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de familles, des journées et des semaines disproportionnées, au détriment de la vie personnelle, de la vie familiale, et de la vie de prière. Lorsque l'encyclique Laudato Si, d'une certaine façon sur l'écologie, sur le respect de la création, est parue il y a 5 ans, cela a été un événement considérable dans et pour l'Église, dans un accent supplémentaire dans la nécessaire prise de conscience d'une mobilisation générale en faveur de la création. Et le pape le disait, tout est lié. La défense de la création de la terre, la défense des pauvres, la défense de la paix. Et tout est lié, pas seulement l'environnement, pas seulement l'espace, mais également le temps. Je me souviens que dans l'enthousiasme qui avait été suscité, d'ailleurs notre évêque avait lancé un appel à idées, j'ai eu l'idée, j'avais pris mon téléphone et j'avais téléphoné à un confrère, très estimé de tous, très influent, et je lui ai dit, on va faire quelque chose pour les feuilles de messe. Vous savez, les feuilles de messe, ici des centaines, mais en tout des milliers, voire il faut un nombre effarant de feuilles qui sont photocopiées, distribuées, jetées chaque semaine. Une aberration écologique. Toujours pensé qu'il fallait faire le bilan carbone de nos messes. Alors évidemment, on ne peut pas faire mieux à énergie positive. Enfin, il y a quand même 2 postes qui sautent aux yeux, le chauffage l'hiver et puis les feuilles de messe tout au long de l'année. Avant, il y avait des missels, mais il y aurait quand même d'autres solutions qui consisteraient à projeter les textes ou les chants sur un écran. Et puis mon confrère m'a répondu, non, il m'a dit, non, je ne ferai rien, je suis un ami de la famille Machin, ne vous donne pas le nom, un des grands noms de la papeterie française. Alors, j'ai raccroché un peu découragé. Vous savez qu'il faut beaucoup de persévérance en la matière. Et c'est pourquoi je vous propose pour ce mois de juillet de continuer à réfléchir à cette question essentielle du respect de la création, de tirer quelques leçons de la crise que nous venons de traverser et surtout de réfléchir à nos rythmes de vie. Notre rapport au temps, c'est le cœur de la protection de l'environnement. Ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est la parole de Jésus à Judas au dernier repas. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Et saint Jean ajoute que personne, aucun des convives ne comprit pourquoi il disait cela, d'autant que Jésus a clairement montré qui était le traître par la bouchée prise dans le plat. Ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est le contraire de la prière. C'est le contraire du repos dont il est question dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Le poids du fardeau, ce n'est pas fatalement une question de charge, c'est une question de pression, de rythme, de délai. Dans le récit de la création, dans le livre de la Genèse, la création du temps arrive à la moitié, au quatrième jour, après la verdure, les arbres et les fruits. Dieu dit qu'il y ait du luminaire, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, pour servir de signe pour les fêtes, les jours, les années. Et il fit deux luminaires, le grand luminaire pour le jour, le petit luminaire pour la nuit. Il vit que cela était bon. Mais le texte montre que de toutes les créatures, le temps est la seule créature dont Dieu n'ait pas confié la maîtrise à l'homme. Le temps n'appartient qu'à Dieu. Quelle est sa raison d'être? La raison d'être du temps, et je vous envoie un excellent livre d'un carme, un carme suédois, le père Wilfried Stinnesen, sur l'éternité au cœur du temps, où il dit de façon très claire que la raison d'être du temps, c'est de nous permettre de nous développer, de grandir, bien sûr d'aller vers Dieu, de germer, de porter du fruit. Le temps a été créé par Dieu pour nous apprendre aussi à donner. C'est à ça que sert le temps. Et dans le récit de la création, et surtout dans le récit de la chute, on ne le comprend pas le plus souvent parce qu'on oublie de replacer l'interdit dans le temps. L'interdit de toucher, de prendre de l'arbre de vie ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr que Dieu avait le projet, le dessein de donner ce fruit. Mais comme la plupart des interdits, pas maintenant. Pas ici ou pas maintenant. Le péché, c'est le plus souvent de s'emparer tout de suite de ce qui ne peut être donné que peu à peu, progressivement. Il en va en particulier des relations entre nous, des relations de confiance, d'amitié, d'amour. Ça se construit. Elles ont besoin de temps. Nous avons besoin de temps pour faire confiance, pour aimer. Et puis, un deuxième critère pour un bon usage du temps, ce que nous vivons particulièrement à la messe, l'écoute de la parole de Dieu, la contemplation du Christ. Une bonne théologie du temps s'enracine nécessairement dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus. Dieu s'est fait homme pour nous montrer comment mener une vie humaine, en communauté, en famille, dans le travail, dans le partage, dans le repos, dans la prière. Comment chacun d'entre nous devons apprendre à rythmer sa vie, rythmer cet emploi du temps, répartir la charge pour que le joug soit facile, le fardeau léger. Que nous changions de rythme de vie, voilà ce que Dieu veut dans sa bienveillance. Et il y a pour cela un levier essentiel qui s'appelle la louange, que nous montre Jésus, qui proclame la louange du Père. Père, je proclame ta louange. Vous voulez changer de vie? Entrez toujours davantage avec Jésus dans la louange.